ressuscité. À toi la victoire.
La grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père, de Jésus-Christ notre Sauveur et la consolation de l'Esprit Saint. Le Seigneur nous appelle, le Seigneur nous rassemble, le Seigneur nous unit et il nous a précédés et est parmi nous. Prions. Père éternel, c'est sûr que nous voulons partager ton éternité. Mais pour l'instant, nous voulons partager ce moment avec toi, ce moment ensemble, ce moment de culte. Fais taire les bruits du dehors. Et que nous puissions ouvrir les oreilles de notre cœur, entendre ta voix qui nous dit encore aujourd'hui, « Je t'aime ». Père, merci parce que tu nous as précédés et que tu es là, au milieu de nous. Qu'à toi revienne toute la gloire, au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à la lecture du psaume 107. Commencerons par le verset 1 à 9. Psaume 107. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi, et qu'il a rassemblés de tous les pays, de l'Orient, de l'Occident, du Nord et de la mer. Ils erraient dans les déserts, ils marchaient dans la solitude, sans trouver une ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim, de la soif, leur âme était languissante. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il les conduit par le chemin droit, pour qu'ils arrivent dans une ville habitable. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses bienfaits en faveur des fils de l'homme. Car il a satisfait l'âme altérée, il a comblé de bien l'âme affamée. Père, nous te louons. Parce que tu nous aimes, nous sommes tes enfants rachetés et tu multiplies tes merveilles en notre faveur. Nous te louons pour Jésus-Christ parce que nous étions errants dans les déserts. Il nous a nourris et abreuvés par la bonne nouvelle du royaume. Nous te louons pour le Saint-Esprit malgré nos différences. Il nous rassemble et fait de nous un seul peuple, ton peuple. Nous te louons pour ce jour qui nous a fait entrer dans la joie de ton règne, nous rendant participants de ta gloire. Nous continuons la lecture du psaume 107, verset 10 jusqu'à 19. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Il humilia leur cœur par la souffrance, ils succombèrent, et personne ne les secourut. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort, et il rompit leurs liens. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Car il a brisé les portes d'airain, il a rompu les verrous de fer. Les insensés, par leur conduite coupable et par leurs iniquités, s'étaient rendus malheureux. Leur âme avait en horreur toute nourriture et ils touchaient aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Le psaume 107 continue, verset 20. Il envoya sa parole et il les guérit, et il les fit échapper de la fosse. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté, pour ses merveilles, en faveur des fils de l'homme. Qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce et qu'ils publient ses œuvres avec des cris de joie. Et Romains 5, 8 nous dit, « Mais Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Que Dieu nous mette vraiment au cœur l'assurance de son pardon et qu'il nous donne de marcher vers ce royaume. Et je vous invite à tourner les yeux vers le Seigneur en chantant ce chant 153. Tournez les yeux vers le Seigneur. Pour le partage de ce matin, je vous propose de continuer la lecture du psaume 107, du verset 23 au verset 32. Psaume 107, verset 23 jusqu'à 32. Ceux qui étaient descendus sur la mer et dans les navires et qui travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et s'émerveillent au milieu de l'abîme. Il dit, et il fit souffler la tempête qui souleva les flots de la mer. Ils montaient vers les cieux, ils descendaient dans l'abîme. Leur âme était éperdue en face du danger. Saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre, et toute leur habileté était anéantie. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il arrêta la tempête, ramena le calme, et les ondes se turent. Ils se réjouirent de ce qu'elles s'étaient apaisées, et l'Éternel les conduisait au port désiré. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, qu'il l'exalte dans l'assemblée du peuple et qu'il le célèbre dans la réunion des anciens. Et une deuxième lecture dans l'évangile de Matthieu, chapitre 14, versets 22 à 33. Matthieu 14, verset 22. Aussitôt après, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul. La barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots, car le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur !» Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens !» Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque, et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Notre récit de Matthieu commence ainsi. « Aussitôt, après. » Ensuite, dans une autre version, « Après quoi ? » Qu'est-ce qui s'est passé pour que Matthieu dise « Après quoi ?» C'est simple, il nous suffit de reculer quelques versets qu'on n'a pas lus, mais je vais vous les lire. Et nous trouvons Jésus dans un lieu désert, avec une foule qui ne le lâche pas, et à laquelle il partage seulement 5 pains et 2 poissons. Mais dans le désert, comment Jésus s'est-il retrouvé dans le désert ? Et là, on recule encore un tout petit peu, et on voit au verset 13, « À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert, et la foule, l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. » Donc il s'écarte dans le désert, et il y a toute la foule qui le suit. Mais encore une chose, au début du verset, « À cette nouvelle, qu'est-ce que Jésus a appris qui a fait qu'il est parti dans le désert ?» On remonte juste un verset encore. Avant, verset 12, les disciples de Jean vinrent prendre son corps et l'ensevelirent et l'annoncèrent à Jésus. Jésus vient d'apprendre que Jean-Baptiste est mort. Son cousin n'est plus et Jésus veut rester seul. Généralement, dans ce moment-là, on n'a pas envie de parler. Et parfois, la foule, c'est souvent pas le meilleur des encouragements. Alors Jésus n'a qu'une chose en tête, être tranquille, monter sur la montagne pour se retrouver avec son Père, tout simplement. Aussitôt après, il obligea à monter dans la barque et à passer de l'autre côté avant lui. Il obligea, c'est vraiment le mot qui est indiqué, obligé. Jésus oblige ses disciples à faire quelque chose, à monter dans la barque. Et je me suis dit, il y a peut-être plusieurs hypothèses. La première, c'est que Jésus doit insister. Les disciples ne sont pas d'accord avec lui de lui laisser tout le travail et de renvoyer la foule. Mais comme Jésus connaît les pensées des disciples et qu'ils ont déjà essayé de les écarter, quelques versets avant, on lit « Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent « Ce lieu est désert et l'heure est avancée. Renvoie-les. » C'est bon, hein. Autrement dit, allez, il est l'heure de rentrer, moi j'ai envie d'aller regarder le bon film à la TV, et ma femme m'attend pour souper. Hein? C'est sans compter sur le plan de Dieu. Dieu ne pense pas comme ça. Et Jésus nous en montre l'exemple. Une deuxième hypothèse, c'est que les disciples connaissent bien le lac de Tibériade. Ce sont des pêcheurs, et il fait nuit. Et à cette heure-là, ce n'est pas l'idéal. Et la tempête peut soudainement arriver. Ils se souvenaient que dans l'autre tempête apaisée, là, hein, Jésus était quand même avec eux. Ça s'est bien passé, valablement, parce que, heureusement, il était là. Autrement dit, mais Jésus, tu peux venir avec nous. Non, tu viens avec nous. Tracasse pas, même si tu dors, c'est pas un problème, mais tu es dans notre barque. Et puis la troisième hypothèse, c'est que Jésus vient d'apprendre que Jean-Baptiste a été décapité et il veut rester seul. Mais les disciples n'entendent pas de cette oreille. Non, non, Jésus, on ne va pas te laisser seul. Parce que dans un cas pareil, tu nous ferais une dépression et on s'en voudrait. Non, on veut être avec toi. Et parfois la liste des excuses, même très bonne ou parfois très biblique, pour ne pas faire ce que le Seigneur nous demande, il les oblige, est parfois longue. Mais c'est sans compter sur la détermination de Jésus, revêtu de l'autorité de son Père, qui est lui-même Dieu, détermination de renvoyer la foule et de rester seul. Dans ce cas précis, il est évident que le chant « Christ nous précédant » n'est pas vraiment indiqué. Jésus, en agissant ainsi, a deux choses en tête. Premièrement, se retrouver en tête à tête avec son Père. Il veut être seul avec son Père. Quand il eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là, seul. Et on se souviendra de Matthieu 6:6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre. Ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Ton Père qui te voit te le rendra. Deuxièmement, Jésus voulait montrer et donner une bonne leçon à ceux qu'il aimait, les former à leur avenir, sans lui physiquement. Jésus allait quitter la terre, il devrait à un certain moment se débrouiller tout seul. Les disciples devaient aller plus loin dans leur foi. Et lors de la première tempête apaisée, c'est déjà le reproche que Jésus leur a adressé. Pourquoi avez-vous eu peur, Jean ? De peu de foi. Cette fois-ci, mes amis, vous devrez affronter la tempête, mais seul, sans moi. Pourtant, Seigneur, tu as dit que tu serais toujours avec nous. Pourtant, il est écrit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Tu vas nous laisser, nous tirer notre plan, tout seul. Et le psaume 107 que nous avons lu dit que ils crient à l'Éternel et ils sont délivrés de leur détresse. On n'est pas seul. Certes, nous dit Jésus, mon Père permet parfois l'épreuve qui débute comme un guet-apens et qui se termine par un passage obligé. Obligé. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer de l'autre côté. Et quand il eut renvoyé la foule, il monta sur la montagne pour prier. La barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots car le vent était contraire. Il est quand même étonnant que les disciples n'ont rien vu. Je crois qu'ils n'auraient quand même pas pris la mer s'ils avaient été peut-être voir Monsieur Météo. Et comme je l'ai déjà dit, le lac de Tibériade, aussi appelé lac de Génézareth, mer de Galilée, il est surprenant. Des tempêtes arrivent comme ça d'un coup. En fait, il est à 200 mètres sous le niveau de la Méditerranée et à la montagne de l'Hermon qui fait 2800 mètres là à côté. Alors quand le vent il descend de 2800 mètres et qu'il atteint ce petit lac, enfin ce petit lac qui quand même, fait quand même 20 km de long, le vent souffle à une vitesse extraordinaire et surprend tout le monde. Et la barque avec les disciples pêcheurs expérimentés, sont quand même des marins chevronnés, est brusquement secouée alors qu'elle est tout au milieu. Elle aurait pu être sur le bord, non ? Au milieu. Parfois, nous sommes surpris. Surpris par la rapidité de l'arrivée de l'épreuve. Ça nous tombe dessus, sans crier gare, comme ça. Le deuil, l'accident, la maladie, la faillite. Ou comme cette pandémie. En quelques jours, le monde entier s'est arrêté. Il y a 6 mois d'ici. Et ce qui m'a le plus étonné, c'est que les avions, tous les avions du monde entier étaient cloués au sol. Un petit virus qui a tout plaqué. En quelques jours. Comme dans le psaume 122, la tempête se soulève et surprend tous ceux qui la subissent. Il dit, elle fit souffler la tempête qui souleva les flots. Il montait vers les cieux, il descendait dans l'abîme. Leur âme était perdue. Saisi de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre. Et toute leur habileté était anéantie. On n'avait pas le choix. On n'a pas le choix de subir cette pandémie. Alors, on était bien tranquille, peinard dans notre travail, peinard dans notre famille, notre maison, notre église. Voilà que, dans la nuit, s'abat la catastrophe qui va nous déstabiliser et à certains moments, parfois, nous saouler. Et même si on est équipé pour l'affronter, on a peut-être des vaccins pour tout ça, mais celui-là, on n'en a pas. Toute habileté est dépourvue. Même les médecins sont dépourvus. Oserais-je foi à la place de l'habileté? Ma foi est secouée. Elle est face au doute. Nous voilà donc en pleine nuit, en plein milieu du lac, en pleine tempête. En total, quoi. Hein? Jésus le savait. Pourtant, il a quand même obligé les disciples à monter dans la barque. Pas moyen d'avancer, pas moyen de reculer, le vent est contraire. Il faut éventuellement parcourir la même distance. Rien du tout. On est là, au milieu de pandémie qu'on ne sait pas quoi faire avec. L'humaniste dira, oh, dans le bateau, nous sommes 12. On peut continuer à ramer. On va y arriver avec nos idées et notre force. L'athée dira, mais où est votre Dieu? Le philosophe lui dit, oh, il n'y a pas le feu au lac, hein. Ça va passer. Mais le pire, c'est, où est votre Dieu? Il y a même des livres qui ont été écrits. Coronavirus, où est votre Dieu? Justement, qu'est-ce qu'il fait Jésus? Que fait Jésus? Il vient vers nous. Il vient vers nous. Comment? En marchant sur l'eau. Jésus est quand même étonnant, hein. Il aurait quand même pu prendre une autre barque. Non, il vient en marchant sur l'eau. Il aurait pu ouvrir la mer, hein. Ça s'est déjà fait, Moïse a ouvert la mer pour que le peuple passe. Non, il vient en marchant sur l'eau. Il aurait pu arrêter le vent, la tempête avant. Non, il vient en marchant sur l'eau. Il aurait quand même pu calmer cette tempête avant. Pourtant, Seigneur, j'ai prié pour être délivré de cette épreuve. Pourtant, j'étais un bon chrétien. Pourtant, j'étais souvent à l'église. J'ai demandé une onction d'huile pour être guéri. Pourquoi? Pourtant, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Mais la tempête est là. Par deux fois, le livre de Job nous rapporte « L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête. » Là aussi, il n'a rien calmé avant. Mais par 3 fois, Paul a prié d'éloigner de lui les chardes qu'il avait reçues et le Seigneur lui a dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Non, Jésus, laisse la tempête, laisse l'épreuve se dérouler, laisse les disciples ramer, nous laisse ramer contre vent et marée. Dieu laisse le Covid-19 se poursuivre. Mais il vient nous rejoindre dans nos deuils, dans nos maladies, nos problèmes conjugaux, nos problèmes financiers. Peut-être, oh, certainement, pas comme nous l'entendons, ni comme nous l'espérons, mais comme lui a décidé, et certainement en nous étonnant. Il est d'autant plus stupéfiant qu'il vient vers eux, et le texte nous dit qu'il allait les dépasser. Quand j'étais gamin, je me dis, il y a Jésus qui fait la course avec nous. J'imaginais les autres qui rament et Jésus qui fait la course. Oui, Jésus veut les dépasser, il veut être le premier. On n'est pas sur le haut du podium, fier d'avoir remporté la course. Mais pour nous devancer, celui qui nous précède est là. On peut chanter. Christ, nous précédant, marchons en avant sur le chemin de la vie. Sa voix sainte nous convie au séjour divin. Lutte et labeur, péril ou douleur pourront traverser ma route. Mais je veux, quoi qu'il en coûte, porter fermé haut ton divin drapeau. Le bonheur s'enfuit, le deuil me poursuit. Il me faut souffrir moi-même ou pleurer pour ceux que j'aime. Mais j'ai dans mon cœur un consolateur. Fort de ton secours, j'avance toujours. Soutiens mon faible courage, achève en moi ton ouvrage, et que par la foi, je sois tout à toi. Mais les disciples qui, jusque-là, vu qu'ils connaissaient le lac, c'est quand même leur métier de naviguer, même en pleine mer, en pleine tempête, n'ont pas peur. Certes, ils rament fort dans leur barquette, mais jusque-là, le texte ne nous dit pas qu'ils ont peur, qu'ils ont la crainte. C'est quand le Seigneur arrive qu'ils vont périr, qu'ils pensent périr, qu'ils ont peur. La trouille commence au verset 26. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés. C'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des grands cris. Bizarre quand même. C'est seulement quand ils voient Jésus marchant sur la mer qu'ils ont peur. Comment expliquer cette panique à la vue de Jésus ? Parce que c'est vraiment de l'angoisse. Ils sont troublés, ils sont effrayés, à tel point qu'ils poussent des cris. Ils pensent que c'est un fantôme. On dirait qu'ils viennent de voir un revenant. Pourtant, Jésus n'est pas encore décédé, n'est pas encore mort. Pourtant, ils connaissent Jésus. Il y a quelques heures, il était avec eux à guérir des malades, à partager le pain et les poissons. Que s'est-il passé ? Le fait que Jésus soit resté seul sur la montagne à prier aurait-il changé quelque chose? Il est un fait que la prière et la communion avec Dieu changent un homme, parfois à tel point qu'on ne le reconnaît pas. Mais vous diriez, Jésus est Dieu, d'accord, mais il est aussi humain, et lui nous montre l'exemple. Nous devons, comme lui, prier. Quoi qu'il en soit, les disciples dirent, c'est un fantôme. Et ce fantôme, il parle. Bizarre. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Et c'est vraiment le verset clé de ce récit. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, quoi que vous voyez, quoi que vous imaginiez, qu'importe la tempête, qu'importe qu'on ait peur de l'attitude de Jésus, il nous dit, rassurez-vous. Rassurez-vous, c'est moi. Que je ne sois pas avec vous dans le bateau, que la tempête fasse rage. Que vous risquiez de périr, je vous le répète. C'est moi, n'ayez pas peur. Que votre vie soit secouée par l'épreuve que Jésus aurait pu arrêter plus tôt quand même. C'est parfois long ces épreuves. Il nous dit, rassurez-vous. Mais Seigneur, j'ai peur. Alors Pierre, si c'est toi, prouve-le. Prouve-le et ordonne que j'aille sur la mer avec toi. Déjà, Pierre lui reconnaît le Seigneur. Certains diront, oui, c'est une forme de politesse. Enfin, je ne sais pas si on fait des politesses à un fantôme. Pierre reconnaît bien le Seigneur Jésus. Mais l'épreuve, quand même, le fait douter. Il en veut plus. Si c'est toi, ordonne que j'aille sur les eaux. Pierre veut être commandé par son Seigneur. Pierre est déjà bien avancé dans sa foi, mais il en veut encore plus. Il faut encore qu'il passe certains tests. Il n'est pas encore prêt à fond. Si c'est toi. Seulement le hic pour aller sur la mer, c'est que pour marcher sur l'eau, il faut sortir du bateau. Il a quelque chose à faire. Tant qu'il reste sur le bateau, pas de souci. Il faut abandonner son outil de travail. Il faut abandonner son gagne-pain. Il faut abandonner son bien, son assurance. Il faut parfois quitter son confort, son bien-être. Il faut quitter le bateau. Certains hommes de Dieu ont dû quitter quelque chose pour suivre leur Dieu. Abraham, quitte ton pays. Joseph doit quitter sa famille. Obligé. Il faut lâcher Parlons pas du jeune homme riche qui doit lui liquider tout son argent pour suivre Jésus. Si quelqu'un veut venir après moi, il ne paie pas son père et sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie ne peut être mon disciple. Il faut tout larguer, quoi. Pour suivre Jésus, c'est pas ce qu'il faut faire. Il faut pas tout larguer. Il faut pas être un kamikaze. Il faut simplement mettre Dieu à la première place. Il n'a pas hésité, lui, à aller jusqu'à la croix. Pour moi. L'Ecclésiaste dira, jette ton pain à la surface de l'eau, car avec le temps, tu le retrouveras. Sors de ton bateau, jette ce qui est nécessaire pour que Jésus ait la première place. Et comme Pierre veut rejoindre Jésus, Jésus lui dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Viens. On peut imaginer Jésus qui dit, viens. Donc, moi j'imagine Jésus avec les bras étendus, viens à moi. Qu'aurions-nous fait? Je m'imagine, moi, dans la barque, qu'est-ce que j'aurais fait? Serions-nous sortis de la barque ou est-ce qu'on serait simplement resté là à regarder? Pierre, n'y va pas, tu vas te noyer, pense à ta famille, pense à tes enfants, ne nous laisse pas tout seul, fais pas le malin encore. Et Paul, va pas à Rome, c'est de la folie, tu vas te faire tuer. Arrête, t'es pas capable. Non, n'y va pas. Ne te lance pas dans ta foi. Ou bien parfois on est négatif devant l'invitation de Jésus qui nous tend pourtant la main. Viens. D'autant plus que ce qui arrive à Pierre, c'est aussi pour les autres. Voyant, verset 29, que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Et les autres, oh, je savais qu'il allait couler. Je savais qu'il n'avait pas l'intention et que c'était voué à l'échec. Je savais, garde un peu. Il fait le malin, lui. Et on y va. Papa, et les corcans. Pierre a le bon réflexe, Seigneur, sauve-moi. Il ne se repliera pas sur lui-même en se traitant d'incapable ou en démissionnant, non. Pierre se rend compte que sans l'aide de Jésus, il ne peut rien atteindre. Pierre se prend peut-être la gêne. Ouais, Dieu, regarde, il a fait le malin. Mais lui, au moins, il a marché sur l'eau. Il a essayé. Il a mis sa foi en action. L'action de Jésus est instantanée. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit, et il dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? C'est le doute qui a fait chavirer Pierre. Remarquez que tous ces événements se passent toujours dans la tempête. Rien n'est arrêté. Il n'y a que quand Jésus et Pierre remontent dans la barque, verset 31, que le vent cesse. Tout ça s'est passé dans l'épreuve. En conclusion, l'épreuve est nécessaire et Dieu nous y pousse, obligé, pour nous montrer combien nous devons être dépendants de lui. L'épreuve est nécessaire pour endurcir notre foi en un Dieu souverain, en un Jésus qui n'a pas hésité à mourir et en Saint-Esprit consolateur. L'épreuve est nécessaire car elle nous fait prendre conscience des risques, bien sûr, de quitter et de tester notre consécration. L'épreuve est nécessaire pour nous apprendre l'humilité de l'échec. Mais le plus grand but de l'épreuve, c'est le dernier verset de notre texte qui nous le révèle. Verset 32, « Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dirent, « Tu es véritablement le Fils de Dieu. Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Ceux qui étaient dans la barque, sous-entendu Pierre, tout le monde reconnaissent, sans distinction, que Jésus est véritablement le Fils de Dieu. Et quelques versets plus loin, à la question que Jésus posera, « Qui dites-vous que je suis ?» Pierre répondra, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Quand tout va bien, c'est facile, hein, de dire, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Mais dans l'épreuve, quelle est notre connaissance de Jésus ? Aujourd'hui, Jésus nous pose la question, « Qui dites-vous que je suis ? Un fantôme ou véritablement le Fils de Dieu ?» La réponse est à vous. Si vous avez répondu le Christ, le Fils du Dieu vivant, alors vivez-le parce qu'il vous tend les bras. Si même le coronavirus est la mer agitée, nous sommes accompagnés et Jésus marche avec nous. Amen. Seigneur, nous savons que parfois l'épreuve est dure et trop longue pour nous hommes, mais tu nous accompagnes, même si elle ne se termine pas. Tu nous accompagnes sur cette épreuve et dans cette épreuve. Tu n'as pas dit que tu la retirerais, mais tu as dit que tu traverserais avec nous pour passer de l'autre côté. Amen.